Il est 10h06 sur France Inter. Très bonne matinée. Bonjour Guillaume Erner, c'est Services
Bonjour
Publics.
Bonjour Delphine, c'est Services Publics. Allez, dites le mot.
Compétitivité.
Voilà, on va parler de la compétitivité. Soyez compétitive. Revenez à 11h pour un autre flash d'information. Et l'industrie française, effectivement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'elle n'est pas assez compétitive. Enfin, ça, c'est ce que suggère le rapport Gallois, troisième rapport du nom, à réclamer des gains de productivité pour l'économie française. Et vous, vous en pensez quoi? J'attends vos appels, vos témoignages au 01 45 24 7000 sur le site internet de France Inter, franceinter.fr et sur les réseaux sociaux Service Public FI. On en rêvait, eh bien c'est désormais officiel, Barack Obama est largement réélu. Parce qu'il est cool, favorable à la sécurité sociale et qu'il rappelle beaucoup moins George Bush que son concurrent Mitt Romney. Oui, parce que je vous ai dit qu'il était réélu, c'est vrai, mais il est largement réélu en France par les Français de France. Un sondage CSA le donne vainqueur avec 78% des voix contre 5% pour Mitt Romney. Oui, c'est vrai, 5% tout de même pour Romney. Mais bon, passons. Reste à expliquer un tel score. Pourquoi un bon président chez nous est un président américain? Probablement parce que l'obamisme est l'ensemble des contresens que l'on a fait sur Obama. Pour les Français, voter Obama est une bonne manière de voter pour la diversité, mais attention, pour la diversité par procuration. Alors que notre pays est à peu près incapable d'élire un député d'origine musulmane, qu'il appartienne à l'islam sans gêne ou avec gêne, les Français voient se réaliser avec Obama l'acceptation du droit à la différence. Sauf que justement, Barack Obama, mi-texan, mi-kényan, n'a jamais invoqué le droit à la différence, mais au contraire le droit à l'indifférence. Le 44e président des États-Unis, et peut-être aussi 45e, s'est toujours situé dans une perspective post-raciale, réclamant son droit à l'indifférence. Toutes ces considérations sur ce qui distingue la France des États-Unis n'empêcheront pas nos politiques français dès demain de se proclamer tous métis, kényans, noirs, musulmans, jeunes de 52 ans et surtout, mariés à une femme d'1m81. Et dans la seconde partie de l'émission, notre fashionista Alice Augustin, journaliste à Glamour, donnera ses propres conseils à l'industrie française. Elle proposera de relancer les métiers disparus, non pas sabotiers, hein, on n'est pas chez Jean-Pierre Pernaut, non, elle veut relancer la chapellerie Chapeau Alice.
De Marius, de Marcel Pagnol à Maurice Chevalier, d'Orson Welles dans Citizen Kane à Dirk Bogarde dans Mort à Venise, de Churchill à Gustave V de Suède, combien de gloires de ce siècle ont arboré la plus aristocratique des coiffures, toujours fabriqué à la main et dont l'ouvrage en question nous apprend qu'il existe en version Borsalino et coloniale, Stetson et Etretat.
Quant à Hervé Pochon, lui a fini par céder. Oui, il était temps qu'il s'allonge sur le divan du psy. Vous le retrouverez le temps d'une séance dans 45 minutes. Mais dans l'immédiat, voici la compétitivité française.
Allez, top chrono. Non mais vous travaillez là. Non, pas du tout. Je suis sur Facebook et je viens d'acheter des tongs sur laredoute.fr. Ah, j'ai compris. Fronce les sourcils, tape plus vite. Bravo, il est bon, on peut l'applaudir. Montrez-nous votre deuxième solution, Michel.
Non, je peux pas.
Pourquoi? Parce que là, je suis complètement sous l'eau. J'ai une tonne de dos à faire, genre ASAP, plus un benchmark à faire pour mercredi.
Excusez-moi, un ASAP, dos...
Ah, j'ai compris. Employer des mots difficiles, genre on travaille. Mais il est bon ce garçon! Il est bon! Oh là là!
Service public, Guillaume Erner.
Compétition de la compétitivité. Et pour en parler, pour parler de la compétitivité française, je reçois tout d'abord Sophie de Menton. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef d'entreprise et présidente du mouvement Éthique, entreprise de taille humaine indépendante et de croissance. En face de vous, Emmanuel Combes. Bonjour.
Bonjour, Guillaume.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 1 et vous avez notamment publié une note intitulée « La compétitivité par la qualité ». Et puis enfin, Guillaume Duval, rédacteur en chef du mensuel Alternative économique. Emmanuel Combes, c'est sur vous que ça tombe. Vous allez devoir nous expliquer en quoi le rapport Gallois prévoit d'augmenter la compétitivité française, comment le fait donc de faire un choc de compétitivité, autrement dit d'alléger le coût du travail, pourrait donc remettre la France dans la course de la compétitivité.
Alors très rapidement, Guillaume, une petite remarque. Vous avez commencé votre émission en disant la compétitivité industrielle. J'aimerais qu'on y revienne tout à l'heure. Il y a aussi de la compétitivité dans les services. Et ça me semble être peut-être un sujet qui n'est pas tout à fait abordé dans le rapport Gallois. Le rapport Gallois nous dit quoi ? Il y a deux formes de compétitivité. Pour que ça soit clair pour nos auditeurs, qu'est-ce qui fait qu'un client étranger achète un produit ? Il ne regarde pas le prix, il compare le prix aux caractéristiques du produit. Bref, il fait un ratio prix divisé par qualité. Si vous n'êtes pas compétitif, vous avez deux leviers. Soit vous baissez le prix de vente. Pour baisser le prix de vente, il y a une solution, c'est de baisser le coût, et notamment le coût du travail. C'est une mesure qui peut être faite assez rapidement. Question, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que les effets vont être durables dans le temps, notamment si le cours de l'euro se met à remonter ? Puis il y a une autre solution qui est de dire, on va augmenter la qualité pour mieux justifier le prix. Et là, vous passez sur la compétitivité hors coût. Or, que nous dit le rapport Gallois ? C'est ce que j'en ai compris. Il faut à la fois jouer sur les deux. La question qui, à mon avis, posée, c'est est-ce qu'on peut faire l'un sans l'autre ? Moi, ma thèse, c'est qu'il n'y a pas de compétitivité hors coût si d'abord, il n'y a pas un choc sur les coûts.
Sophie de Menton.
Oui, j'ai envie de redescendre plusieurs étages. Moi, je représente des chefs d'entreprise qui, en ce moment, sont complètement désarçonnés. On parle effectivement de compétitivité, mais nous vivons de plein fouet une loi de finances qui va être votée dans les 10 jours. Donc déjà, on ne comprend plus du tout la contradiction énorme qu'il peut y avoir entre la loi de finances et ce que dit le rapport de Gallois. On ne sait pas ce qui va sortir de tout ça. Et j'ai envie de dire que la compétitivité...
La loi de finances voulait dire qu'on va augmenter les impôts...
Ah bah absolument, on va couper les pattes des pigeons. Et des autres.
Vous êtes un pigeon ?
Bien sûr, tous les chefs d'entreprise en France ont aujourd'hui le sentiment d'être pigeon. Moi, j'ai envie de dire que la compétitivité, elle est en chacun d'entre nous. Et c'est en cela que j'irai même plus loin en disant qu'il n'y a même pas de hors-coût et de coûts, je ne vois pas la frontière. C'est-à-dire que même dans le domaine des services, la compétitivité en matière de tourisme, c'est de sourire, c'est de parler anglais, c'est d'accueillir le client,
100%
c'est de les laisser rentrer et pas fermer violemment la porte.
Vous êtes sûr que vous ne confondez pas la compétitivité et l'efficacité ?
Non.
Ah mais pas du tout. D'ailleurs, une compétitivité sans efficacité, excusez-moi, ça n'existe pas. Et donc nous sommes aujourd'hui un pays qui n'est pas compétitif du fait de sa lourdeur administrative, du fait de ses contrôles, du fait tout ce qui pèse sur les entreprises, du fait de la mentalité.
Est-ce que vous considérez, Sophie de Menton, que le coût du travail, est-ce que le coût du travail est trop élevé en France, Sophie de Menton ?
D'abord, il y a des coûts du travail. Je ne pense pas qu'il y a le coût du travail. Ça ne veut rien dire. Le coût du travail dans l'industrie, le coût du travail dans le service. Ça n'a rien à voir. Donc, les coûts du travail, je pense qu'on se cache un peu derrière ça. Évidemment que c'est mieux. Mais les magouilles qu'on est en train de mettre en place à travers ce rapport ne vont pas du tout améliorer la complexité.
La complexité de ce rapport. Guillaume Duval, à Alter Echo, on est plutôt circonspect sur la notion de compétitivité. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, enfin, je pense qu'on reconnaît aussi tout à fait la gravité de la situation. Donc on a eu en 2011 42 milliards de déficit sur les produits manufacturés, auxquels il faut rajouter 60 milliards pour le pétrole, le gaz, etc. etc. Si on doit compter sur le tourisme pour compenser ça, on est loin du compte. Pour l'instant, ça rapporte 8 milliards à la France. Donc il y a un réel problème de compétitivité sur le terrain industriel. Si on veut continuer à se payer des iPhones, des écrans plats, etc., qu'on produit plus, il va falloir réussir à produire et exporter des choses. Après, la question de savoir à quoi ça tient. Je pense qu'il y a une dimension que Madame de Menton a un peu oubliée. C'est, je pense qu'il y a une responsabilité des dirigeants d'entreprise et du style de management qui est mené en France et de
ça
la
veut dire
manière...
que nos patrons seraient rétrogrades ou pas assez.
Nos patrons sont frileux, ils sont autoritaires, hiérarchiques. Ils viennent des cabinets ministériels, ils débarquent dans les grandes entreprises, ils y connaissent rien et ils veulent tout casser.
20 patrons à tout casser. Et puis ils sont un peu comme les syndicats, non ? Tel que vous
décrivez,
je crois entendre les syndicats.
Vous me permettez de terminer. Oui. Je pense qu'on se gargarise beaucoup en ce moment, et à juste titre, sur différents aspects de la compétitivité allemande. Une partie essentielle de la compétitivité allemande, ça tient à la place qui est reconnue appartenu aux salariés, aux représentants des salariés dans les grandes entreprises. En Allemagne,
il y a la moitié.
On va laisser répondre
Sophie Menton. En Allemagne, il y a la moitié des représentants dans les conseils d'administration qui sont des représentants des salariés. Les comités d'entreprise ont des pouvoirs qui ne sont pas de consultation, mais qui sont de veto.
Guillaume, si le comité d'entreprise n'est pas d'accord.
Alors, je dirais qu'on est, malheureusement dans une totale lutte des classes, avec les classes qui sont transposées effectivement au monde de l'entreprise. Je dirais, et je n'aurais pas la prétention de penser que nos patrons sont les meilleurs, je pense effectivement qu'ils
ont... Mais quand vous dites
qu'on
est dans la lutte des classes, Sophie de Menton, vous croyez en la lutte des classes ?
Ah ben pas du tout, je n'aime pas du tout ça et je déteste qu'elle ait été transposée au monde de l'entreprise, c'est paralysant. Ce que je veux dire, c'est que quand vous citez l'Allemagne, pardonnez-moi, ils ont des syndicats formidables qui sont complètement en osmose, qui veulent que la boîte réussisse, qui font parfois des efforts terribles et plus importants que les chefs d'entreprise. Moi, je demande pas mieux. J'adorerais qu'on ait des syndicats responsables.
Alors, et mes patrons, vous parlez de l'Allemagne, moi, j'aimerais qu'on aille en Angleterre. J'aimerais qu'on aille en Angleterre, puisque nous sommes en ligne avec Sophie Peder. Bonjour, Sophie.
Bonjour.
Vous êtes correspondante à Paris de The Economist et nous avons besoin de vous, Sophie, pour qu'un regard anglais soit posé sur ce débat français. Est-ce que vous trouvez que la France a un problème de compétitivité ?
C'est pas moi, tout le monde le dit, même en France. Donc je pense que ça, c'est un diagnostic qui est partagé par tout le monde. Vous avez vu non seulement le rapport gallois hier, mais le FMI qui a publié également son rapport sur la France sous la présidence de Christine Lagarde à Washington et qui dit la même chose. Et c'est une inquiétude pour tout le monde parce que c'est dans l'intérêt. C'est pas dans l'intérêt de la reste de la zone euro d'avoir une France affaiblie comme ça. Mais je pense que c'est important de mettre tout ça dans une perspective relative. C'est-à-dire que la France, il y a 12 ans, la France était toujours une économie performante et compétitive. Et c'est vraiment ces derniers 10 à 12 ans où le pays a perdu sa compétitivité par rapport notamment à l'Allemagne, mais également d'autres pays du nord de l'Europe.
Qu'est-ce qui s'est passé selon vous alors, Sophie Peder?
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la France, c'est une économie qui est trop taxée, qui est trop régulée, et c'est un ensemble de ces facteurs et y compris ceux qui touchent le coût du travail, évidemment, mais ce n'est pas simplement ça. C'est comme Sophie de Menton, votre invitée, vient de dire, c'est la culture au sein de l'entreprise, le rapport conflictuel entre le patronat et les représentants syndicaux. Il y a une absence de consensus sur le besoin que tout le monde doit faire un effort pour retrouver la compétitivité en France. Ce n'est pas simplement une question de, taxer les entreprises ou...
D'accord, c'est un problème de changement culturel. Alors, Guillaume Duval va vous répondre.
Oui, je voulais réagir. Enfin, je ne suis pas sûr qu'un regard anglais soit très efficace sur les questions de compétitivité, mais...
Oui, enfin, Sophie de Menton, c'est Menton qui tape du poing sur la table.
L'industrie anglaise n'est pas dans un état très florissant. Ça a été pendant quelques années un sultanat pétrolier parce qu'on avait trouvé du gaz et du pétrole dans la mer du Nord. Mais en dehors de ça, la situation est aussi difficile chez eux que chez nous.
On ne peut pas laisser dire
Permettez-moi Emmanuel. Je voudrais juste terminer sur le point de savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans. Il s'est passé depuis 10 ans. Une chose, on a subi un choc de compétitivité en France et en Europe qui est effectivement formidable, mais ce n'est pas du tout celui qu'on décrit, c'est celui de la hausse du taux de change de l'euro par rapport au dollar.
Alors expliquez-nous rapidement, Guillaume Duval, en quoi les taux de change ont une conséquence sur la compétitivité.
Absolument. L'euro, il avait démarré à 0,9 euros pour un dollar en 2000. Il était monté à 1,60 en 2008. Ça a eu comme conséquence que le prix du travail français, l'écart entre le prix du travail français, le prix du travail américain, le prix du travail japonais, mais aussi le prix du travail mexicain, mais aussi le prix du travail taïwanais, mais aussi le prix du travail coréen, s'est formidablement accru sur toute cette période-là.
Emmanuel Combes,
c'est ça qui a nettoyé toute l'industrie européenne en dehors de l'industrie allemande.
Ah
et
oui.
C'est vrai que c'est une caractéristique tout à fait particulière, mais les Allemands ont réussi essentiellement pour des raisons hors coût, c'est-à-dire parce qu'ils avaient une spécialisation industrielle qui correspondait à ce qu'il fallait.
Très rapidement, deux remarques sur ce que vient de dire Guillaume Duval. Je ne suis pas du tout d'accord. La preuve par l'exemple. L'Allemagne, quand le taux de change de l'euro, l'Allemagne est dans la zone euro, elle vend des Porsche même lorsque l'euro est à 1,50 €. Ce qui montre bien que le véritable... le taux de change n'est une contrainte que pour autant que vos produits ne sont pas des produits entre guillemets de qualité. Deuxième remarque, c'est intéressant, si j'ose dire, l'inconscient de ce qu'a dit Guillaume Duval. Au fait, au fond, vous êtes assez proche du rapport Gallois et du consensus en France. Il n'y a de compétitivité que dans l'industrie définie de manière très, très, je dirais, limitée. On oublie les services. Je suis désolé. Quelques informations pour nos pour nos auditeurs. L'industrie, c'est-à-dire la recherche-développement, les ingénieurs, c'est fondamental. Hein. C'est l'aéronautique, le matériel de transport, les pièces automobiles, ça fait un solde commercial positif de plus 33 milliards. Tourisme, industrie du luxe. Dans l'industrie du luxe, il n'y a pas d'ingénieurs. Et enfin, produits du terroir, ça fait plus 33 milliards. Il faut marcher sur ces deux jambes. Juste un mot pour terminer, ça signifie quoi ? La qualité, ça n'est pas que de la recherche-développement, ça n'est pas que l'industrie au sens strict. La compétitivité doit être partout.
Sophie de Menton.
Oui, un petit mot, enfin une plaisanterie. D'abord, c'est qu'en France, les Porsche ont les rails en plus. Donc, il y a un vrai souci, effectivement, de
culture. Vous voulez dire qu'on n'aime pas les riches ?
On n'aime pas les riches, on n'aime pas tout ce qui symbolise la richesse et en même temps, on voudrait produire ça. Étonnant. Je voudrais aussi dire quelque chose qui m'a fascinée, c'est que Air France KLM a fait une fusion qui était tout à fait intéressante et qu'on a calculé que si Air France avait mis tous ses contrats de travail aux Pays-Bas, fusion européenne, il aurait économisé 7 millions d'euros par an.
Ben vous voyez que vous en parlez du coût du travail.
Donc effectivement, ça m'a quand même, ça a été quand même très frappant.
Du coût du travail,
alors
finement,
problème, c'est problème. En tout cas, il y a une réalité qui est que nous avons
disons
un coût du travail
élevé. Selon vous,
mais
en
c'est
France.
Pas tellement le coût du travail, c'est d'abord certains domaines et certaines activités, et ensuite c'est l'erreur fondamentale qui consiste à faire payer la protection sociale par le travail. Donc c'est une erreur d'attribution de tous ces budgets et une confusion absolue que nous devons d'ailleurs en particulier. Il faut faire une page de pub à Alternative Économique qui fait, je pense, une désinformation économique, pardonnez-moi, mais que je trouve stupéfiante.
On la doit à Bismarck et au système de protection sociale qu'il a mis en place en Allemagne à la fin du siècle dernier et qui d'ailleurs fait partie de la compétitivité allemande, l'avance qu'ils avaient pris dans ces domaines.
Avant de reparler de l'Allemagne, on va en terminer avec l'Angleterre. Sophie Péder, est-ce que vous pensez que les Français réussiront à se mettre d'accord sur ce débat-là ? Est-ce que ce que vous venez d'entendre est par exemple possible en Angleterre, puisque vous travaillez pour The Economist, qui est un magazine britannique.
Oui, c'est un magazine britannique, mais je ne suis pas là pour parler de l'Angleterre. Juste un mot sur cette idée qu'une perspective anglaise est inintéressante, que disait un de vos invités. D'abord, il faut que les Français sachent juste une chose, qu'il y a plus d'usines dans l'automobile en Angleterre actuellement qu'en France. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois oublié. L'autre chose, c'est que la part de l'industrie dans l'économie britannique est plus importante que la part de l'industrie en France. Donc je dis ça juste comme petite anecdote. Mais ce que je veux dire, c'est pas du tout un point de vue britannique. Mais regardez le palmarès de la compétitivité en Europe. La France est sortie du top 20 pays les plus compétitifs au monde. Elle est 21e pays. Et c'est pas à cause de la zone euro. Parce que regardez le Pays-Bas et l'Allemagne qui sont situés au 5e et au 6e place dans ce même palmarès. Le Pays-Bas, petite économie, petit pays en termes de population, exporte plus que la France actuellement.
Bien sûr, il y a Rotterdam.
C'est quelque chose d'extraordinaire avec la même
Marseille. Ça n'a rien à voir avec l'industrie néerlandaise.
Si on appelle les syndicats pour paralyser Marseille, ce serait le premier port européen.
Alors, écoutez, merci Sophie Péder pour votre analyse de la situation. On est allé malgré tout voir des entreprises françaises qui sont des entreprises compétitives, notamment dans le domaine du jeu vidéo. C'est Thomas Chauvineau qui s'en est chargé. Nous avons des écoles mondialement réputées dans ce domaine. Nous avons également une entreprise comme Ubisoft qui est parmi les 5 premiers éditeurs de jeux vidéo. C'est un secteur qui se porte très bien d'ailleurs, puisque c'est la première industrie culturelle française avec 2,7 milliards d'euros contre 800 millions pour la musique et 2 milliards pour le cinéma. Alors voilà, Thomas Chauvineau est allé en voyage au pays de jeux vidéo.
Oui, le jeu vidéo est un secteur d'excellence pour la France. Je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus forte, d'une manière générale, que le numérique est là où on peut créer de la richesse, de l'emploi. Très concrètement, les États-Unis, ils portent Facebook, Google, Microsoft, Amazon, et c'est ces entreprises-là qui créent de l'emploi, plus que même General Motors ou Ford. Donc c'est dommage qu'en France, on n'ait pas autant de prise de conscience de l'importance du numérique. Et quand je dis numérique, c'est le web, c'est l'informatique, c'est le logiciel. Ayant dit ça, si effectivement on regarde de près ce qui se passe dans le numérique, il y a un secteur dans lequel la France a réussi à avoir des champions mondiaux, Vivendi, Ubisoft, Gameloft, et puis tout un tas de PME extrêmement dynamiques, Ankama et tant d'autres, eh bien, effectivement, c'est le jeu vidéo. Produire un jeu en France va coûter plus cher qu'il ne le fera en Angleterre, en Allemagne. Parce qu'on a fait des choix sociaux qui sont les nôtres, et je crois qu'il ne faut pas les remettre en cause. Mais après, c'est une question d'optimiser la gestion de nos choix. Si vous voulez, c'est très concret. À un moment donné, dans une PME de 5, 6, 10 personnes, quand l'entrepreneur qui porte le projet doit passer un jour et demi par semaine en moyenne pour gérer des complexités techniques administratives qui, en Allemagne ou en Angleterre, lui prendraient qu'une demi-journée, bah, c'est une journée de moins qu'il passe avec son équipe. Il y a une déperdition de temps, d'argent, d'énergie qui, au final, fait que de petites choses se cumulent et que ça représente des mois et des millions d'euros quand on parle d'une production française qui coûte... Alors, pour des jeux consoles, ça coûte beaucoup d'argent. Un jeu pour PlayStation 3, Xbox 360, c'est 10, 15, 20 millions d'euros d'investissement. Ben, on peut se retrouver sur ces budgets à 10, 15 millions à avoir 1, 2, 3 millions d'euros de perdus par des cumuls de complexité, des cumuls de dépenses qui finalement sont peut-être uniquement traitables par une meilleure gestion, une meilleure coordination, beaucoup plus de pragmatisme. La réalité, c'est que on n'a pas fait vraiment de choix. C'est-à-dire qu'on traite de la même façon des très grosses entreprises, des PME, des sociétés qui sont dans l'industrie, dans les services, ou des entreprises comme les autres qui sont dans l'industrie de l'immatériel, qui sont dans le numérique, qui ont des spécificités. Et peut-être qu'avec aussi un peu mieux de discernement, on pourrait mieux accompagner des entreprises avec des outils plus adaptés les unes les autres. C'est plus facile d'aller, je ne sais pas, si on est dans une entreprise normale, d'aller financer des bureaux, si on est une imprimerie, une machine à imprimer, qu'aller financer une technologie logicielle, immatérielle, pour faire des jeux vidéo. Le système et l'écosystème financier juridique est sans doute plus adapté à l'industrie matérielle. Pour un homme politique, c'est plus facile d'aller couper un ruban d'une usine avec plein de monde que des bureaux où il y a des salariés bien payés, mais qui font des choses un peu mystérieuses et un peu immatérielles.
Service public. 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Le reportage de Thomas Chauvineau, Emmanuel Combes, vous acquiesciez sur ses propos sur la compétitivité française.
Oui, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'industrie du jeu vidéo qui est symptomatique justement de cette dimension élargie de la compétitivité. La compétitivité, c'est aussi la créativité. Et il ne faut surtout pas laisser de côté toutes ces activités immatérielles qui créent de la richesse. L'important, c'est créer de la richesse. On crée de la richesse avec un Airbus, on crée aussi de la richesse en faisant des jeux vidéo. Sauf que, comme le disait la personne que vous interviewez, on a quand même le sentiment que la politique industrielle est plus tournée vers ces grandes industries qui le méritent. N'oublions pas qu'il faut marcher sur nos deux jambes. La compétitivité, c'est la recherche, bien entendu, mais c'est aussi la créativité, le design, les délais de livraison, le service après-vente.
Guillaume Duval.
Oui, je pense qu'il y a effectivement des choses importantes qui ont été dites. Ce qu'il faut savoir en particulier, c'est que du côté du coût, on paye du coût du travail, on paye aujourd'hui une politique qui a été menée par tous les gouvernements de droite et de gauche avec beaucoup de continuité depuis 30 ans, à savoir que ça fait 30 ans que tous les gouvernements disent on a beaucoup de chômeurs peu qualifiés, c'est parce qu'on n'a pas assez d'emplois peu qualifiés, il faut créer davantage d'emplois peu qualifiés, et pour ça, on a abaissé le coût du travail au niveau du SMIC, et aujourd'hui c'est très sensible. Mais du coup, comme il fallait quand même payer la protection sociale qu'on n'a pas voulu à juste titre réduire, c'est effectivement le travail qualifié qui coûte plus cher en France et qui pose des problèmes de compétitivité coût entre la France et les autres pays. Une partie essentielle du problème, c'est aujourd'hui justement de transférer une partie des charges qui pèsent trop sur l'industrie et le travail qualifié du type de celui qui vient d'être décrit, sur les services et les services qui emploient beaucoup de travail peu qualifié.
Ça veut dire quoi concrètement, Guillaume Duval ?
Aujourd'hui, ça veut dire que l'industrie manufacturière, elle représente 10% de l'emploi, 10% de la valeur ajoutée en France, et elle paye 14% des cotisations sociales. Parce que les restaurateurs, parce que les gens qui emploient beaucoup de smicards n'en payent pas.
Sophie de Menton, oui. Vous êtes d'accord avec ça ?
Je veux dire, c'est très, très abstrait. J'étais en train de penser là.
Non,
à notre...
il était plutôt contre.
Oui, mais ce que je
Guillaume
veux dire,
Duval,
c'est que...
il disait que l'industrie payait trop et que les restaurateurs et qu'un certain nombre d'autres
non,
entreprises de services.
Je suis pas tout à
services...
fait d'accord. D'abord parce que les restaurateurs, ils sont vraiment eux contraints de rester là parce que c'est des toutes petites boîtes, parce que c'est des types. Franchement, il y a la 90% des restaurateurs qui ont pas d'argent, qui n'y arrivent pas, qui joignent pas les deux bouts. Il y a des tas de problèmes autres dans la restauration. C'est la flexibilité du travail. C'est compliqué. On leur avait promis ça. Il y a une instabilité terrible. On ne va pas venir sur les restaurants. Néanmoins, dans le secteur des jeux vidéo, justement, que j'écoutais, c'est complètement ce fameux secteur qui a été mis en exergue par les pigeons. Parce que le fameux article 6 de la loi de finances, qui est devenu une usine à gaz. Il y a une ligne d'article 6 et cette ligne d'exception incompréhensible, qui pousse d'ailleurs au manque d'éthique, à l'abus de droit, à toutes les interprétations possibles. Et justement, tous ces secteurs nouveaux, il faut de la flexibilité. Il faut de la rapidité, il faut de la souplesse, il faut, oui, pourquoi pas revendre sa boîte tout de suite et en créer une autre. C'est complètement un autre univers qui va aussi vite que le jeu vidéo. Et nous, nous sommes au 19e siècle.
Je vous emmène dans un paradis fiscal, Jersey, Granville.
De la plage de Granville, tout oublier, laisser le vent souffler et prendre la mer pour tout recommencer à Jersey. De t'emmener avec moi, de t'emmener avec moi, t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi.
Inter, service public.
Gagner moins pour vendre plus, un débat sur la compétitivité française en compagnie de Guillaume Duval, rédacteur en chef du mensuel Alternative Économique, Emmanuel Combes, professeur d'économie à l'Université Paris 1, Sophine Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement Éthique et un auditeur au standard. Frédéric, bonjour Frédéric.
Bonjour.
Vous êtes chef d'entreprise ?
Oui, j'ai deux entreprises. Oui.
Vous êtes un pigeon ?
Pas du tout. J'étais un peu offusqué d'ailleurs par les déclarations comme quoi tous les chefs d'entreprise étaient des pigeons, parce que déjà il y a des mouvements, des organisations patronales comme le CJD ou la CGPME qui ne cautionnent pas forcément ce mouvement-là.
Mais alors, est-ce que vous considérez que vous manquez de compétitivité, qu'il faut donc diminuer les charges, le coût du travail en France ?
Alors moi, ce que je dirais surtout, avant de diminuer la compétitivité, enfin de diminuer les charges, il faudrait déjà diminuer la pression que les petites entreprises subissent de la part des grandes. Parce qu'aujourd'hui, plus que la pression fiscale que l'on subit, parce que moi je suis assez solidaire des difficultés fiscales qui sont celles de la France, donc ça ne me pose pas de problème de payer des impôts, je trouve par contre que les grandes entreprises exercent une pression sur leurs sous-traitants qui est dévastatrice. Aujourd'hui, on se gargarise d'avoir des numéros 1 mondiaux en disant « Ouais, telle entreprise est numéro 1 mondial, c'est génial, c'est génial. » Mais on oublie derrière qu'il y a pléthore de PME qui souffrent et qui subissent la pression que ces entreprises leur font subir.
Tandis d'accord, que dans d'autres pays, pour vous, c'est le premier souci, c'est la pression subie par les sous-traitants, ce fin de menton.
D'accord. C'est vrai qu'il y a eu Jean-Claude Volo qui a été remarquable médiateur. Et que
qui est Jean-Claude
ça reste... Jean-Claude Volo était le médiateur entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs, les grandes entreprises. Je pense que c'est un réel problème qui est abordé d'ailleurs dans le rapport Gallois. Et ce n'est pas idiot effectivement d'évoquer ce sujet.
Vous avez dit que le rapport Gallois n'était pas idiot.
Non, mais il y a plein de propositions intéressantes. C'est un peu une liste à la
Prévert. On a réussi à vous le faire dire. Emmanuel Comte.
Ce qui est très intéressant dans la remarque de votre auditeur, c'est en effet ce dualisme français. Le problème de la France n'est pas qu'elle ait des champions. C'est que ce sont toujours les mêmes. Regardez aux États-Unis, Amazon, Facebook, Starbucks n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans. En clair, nous avons des PME. La question, c'est comment fait-on pour qu'elles deviennent des géants ? Le vrai sujet, c'est pas de savoir s'il y a des géants ou pas, c'est est-ce qu'on peut renouveler nos géants ? Et on revient sur le sujet, la compétitivité, ça n'est pas quelques secteurs en particulier, c'est toute l'économie. Starbucks, c'est 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est le même chiffre d'affaires que ADS et les mêmes marges.
Guillaume Duval, donc on a compris que pour vous, l'un des premiers problèmes était le taux de change, autrement dit l'euro qui a défavorisé la France. Qu'est-ce qui serait possible de faire pour que l'industrie française, les services français gagnent en compétitivité alors ?
Donc effectivement, la question du taux de change est centrale et Louis Gallois l'a souligné à juste titre hier. Il faudrait que l'Europe se dote enfin d'une politique de change comme les Chinois en ont, comme les Américains en ont. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée jusqu'ici et qui me paraît essentielle sur le plan des coûts, à la fois pour les ménages et pour les entreprises, c'est la question de l'immobilier en France. Donc une des grosses difficultés avec l'Allemagne, c'est qu'on a eu une bulle immobilière extraordinaire. Donc les prix de l'immobilier ont été multipliés par 2,5 en France entre 1996 et maintenant. Un logement en moyenne en France, il coûte 3800 euros du mètre carré contre 1300 euros en Allemagne. C'est un rapport de 1 à 3, c'est formidable. Et c'est ça aussi qui exerce une pression très forte sur les coûts salariaux, d'une part, et sur les coûts aussi immobiliers des entreprises, d'Ubisoft et des autres, etc. etc.
Mais alors là aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?
Il faut vraiment faire des choses pour dégonfler cette bulle immobilière rapidement. Donc là, ça consiste effectivement à mettre davantage de foncier à disposition pour construire davantage, c'est vrai, mais ça consiste aussi à densifier les villes, à avoir une politique beaucoup plus volontariste jusqu'ici, mais aussi une fiscalité qui soit moins incitative à placer l'épargne des Français dans l'immobilier. Le problème, c'est qu'on est très riche.
Vous voulez inciter les Français à acheter des actions, Guillaume Duval ?
Absolument.
Ce serait bien, ça.
Absolument.
Mais on n'achète pas d'actions.
Les dividendes, madame, on peut en parler. Pour l'instant, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop et ça ne sert à rien.
Mais je ne mets pas mon argent en actions, pardonnez-moi. Si je suis Français moyen et je place mes économies, si vous ne versez pas de dividendes,
si on est capable d'avoir davantage d'activités économiques, vous aurez aussi des plus-values sur vos actions, ce qui n'est pas le cas du tout pour l'instant. Mais effectivement, les Français sont très riches. On est les quatrièmes au monde par le patrimoine par habitant, derrière les Suisses, les Australiens et les Norvégiens. Mais simplement,
notre argent, il est
bloqué dans des choses qui ne servent à rien, c'est le foncier, l'immobilier.
Un auditeur au standard, Yves. Bonjour Yves.
Oui, bonjour monsieur. Alors, j'entends toujours partir de compétitivité par rapport à l'Allemagne, mais l'Allemagne, ce n'est pas un modèle que je sache. J'ai vu sur le Congrès international il y a une quinzaine de jours qu'une personne qui gagne entre 2000 et 2500 euros de salaire, quand elle est en retraite, elle ne perçoit que 688 euros.
Il y a en pas Allemagne, de complémentaire. Dites-vous.
Oui, en Allemagne.
Oui, oui.
Il n'y a pas de complémentaire en Allemagne. Et si on calcule que paye le patronat français, je ne parle pas des retraites de cash, je parle simplement de la retraite de base, qui est de 19% dans le revenu international. Si on rajoute ce pourcentage de cotisation au salaire allemand, ben, ils sont plus chers que nous.
D'accord. Donc, vous considérez que l'Allemagne n'est pas un modèle. Merci Yves-Emmanuel Combes.
Elle n'est peut-être pas un modèle en termes de compétitivité coût, elle le reste en termes de compétitivité par la qualité. On revient toujours au même sujet. Les Allemands sont très peu sensibles au taux de change.
Ce qui vient de vous dire Emmanuel Combes, c'est qu'elle n'était surtout pas un modèle pour les salariés.
Mais ne réduisons pas la compétitivité.
C'est un souci, parce que si vous supprimez les salariés, l'économie...
Non, ce que je veux dire par là, c'est que même si les salaires venaient à augmenter fortement en Allemagne, vous n'achetez pas une Porsche parce qu'elle coûte moins cher qu'une voiture française.
Bon, mais si pour produire une Porsche, vous devez faire en sorte que des gens aient une retraite très faible, ce n'est peut-être pas un bon modèle
de
société.
Absolument. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que ce qui est intéressant en Allemagne, ce n'est pas du tout les réformes Schröder. Les réformes Schröder ont très mal préparé l'avenir de l'Allemagne, notamment sur cette question des retraites. Elles ont étendu la pauvreté et les inégalités en Allemagne. En 7 ans, il a réussi à faire d'un pays qui était beaucoup moins inégalitaire que la France, un pays qui est plus inégalitaire que la France aujourd'hui. Et je pense que ça se paiera beaucoup dans le futur.
Il faut expliquer Guillaume Duval. Il faut expliquer Guillaume Duval. Qu'il y a eu des réformes importantes du marché du travail, les fameuses réformes Hartz, qui ont contribué à flexibiliser le marché du travail allemand et qui sont aujourd'hui au cœur, évidemment, de nombreuses polémiques.
Il y a aujourd'hui 15% d'Allemands qui sont pauvres, alors qu'il y en a 12% en France, et qu'il y a aujourd'hui 3 millions de personnes qui travaillent pour moins de 6 euros de l'heure en Allemagne. Alors, c'est peut-être ça le modèle qu'on veut importer, mais je crois que si l'Allemagne gagne, c'est pas du tout à cause de Schröder, c'est plutôt malgré Schröder, parce qu'ils ont une bonne spécialisation, mais qui est très ancienne dans les machines, dans les voitures de luxe, dans les choses comme ça.
Sophie de Menton.
Écoutez, je pense que je suis assez étonnée d'entendre ça, parce que Schröder a sauvé l'Allemagne qui était dans un état économique effroyable, donc il a carrément, d'ailleurs au prix de sa réélection, c'est-à-dire qu'il savait très bien que les mesures qu'il prenait étaient impopulaires, allaient sortir l'Allemagne du marasme. Et n'oublions pas aussi le choc terrible avec l'absorption de l'Allemagne de l'Est, qui a été quand même...
Ça c'était antérieur.
C'était antérieur, mais je veux dire, il a fallu amortir ce choc terrible. Et donc ils y sont arrivés, et en plus de ça, pardonnez-moi, mais il y a eu une unité et une force dans le peuple allemand que j'aimerais bien voir en France, que ce soit du côté des syndicats, des salariés, de leurs dirigeants, de leur abnégation vis-à-vis de l'Europe, parce que c'est quand même le banquier de l'Europe. Enfin, moi je trouve que c'est quand même assez exemplaire quand même.
Jacques nous demande comment cela se fait-il que les entreprises françaises ne réussissent pas à produire des voitures en France alors que Toyota avec la Yaris y arrive très bien. Emmanuel Combes, comment vous expliquez ça?
On produit d'abord des voitures en France.
Non mais on le fait avec des difficultés.
Le produit low cost par définition n'est pas... Il n'est pas possible de le produire en France, puisque c'est un produit justement à très bas coût.
La Yaris, ce n'est pas une voiture très haut de gamme, vous qui parlez de Porsche, Porsche.
Oui, mais on revient toujours à la même question de la qualité. Hein. Désolé, mais c'est, me semble-t-il, le problème français. La qualité, c'est notamment la qualité de fabrication, c'est le service après-vente. Regardez les standards chez Toyota qui sont extrêmement élevés. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas chez les constructeurs français. En tout cas, chez Toyota, ils sont extrêmement élevés. C'est le fameux modèle toyotisme. Je voudrais, si vous voulez, revenir à un point sur lequel je crois qu'on est au moins tous les trois d'accord, ce qui est plutôt bien, c'est qu'au fond, la compétitivité, si on veut que ça marche, il faut que les Français y adhèrent. Et j'aime bien cette notion de choc de confiance. Or, à mon sens, là où on ne sera peut-être pas d'accord, c'est que pour que les Français y adhèrent, il faut que ça leur parle. Quand vous leur parlez de compétitivité coût, il en faut, hein, c'est anxiogène. Quand vous leur dites « on s'en sortira en faisant de la recherche et des prix Nobel », c'est très bien les prix Nobel.
Mais ça ne les concerne pas tous.
Le français moyen, ça ne les concerne pas. Quand vous lui dites « la compétitivité, c'est pour toi si on te forme, si on met de la qualité ». Et je rejoins ce que disait Sophie de Menton tout à l'heure. Pour moi, la compétitivité, elle se joue aussi au coin de la rue et pas seulement dans les bureaux de recherche. Il faut bien sûr de la recherche, mais la compétitivité, c'est un concept large,
Guillaume
inclusif.
Duval.
Oui, absolument. De toute façon, enfin, moi, j'ai travaillé 4 ans en tant qu'ingénieur dans une vie intérieure en Allemagne. Et c'est vrai que la conclusion que j'en ai tirée, c'est que la principale différence, c'était la fierté des ouvriers, le respect que toute la société marque à leur égard, et que c'est ça qui explique la compétitivité allemande beaucoup plus que le reste. Et il y a un des points qui est en train d'être traité, qui est essentiel dans ces affaires-là, c'est la formation, c'est l'éducation. On a un système de formation qui pousse les gens à aller toujours plus loin dans les études, mais qui reste structuré par l'idée de sélectionner par l'échec la petite minorité de très grandes écoles qui dirigera l'État et les grandes entreprises derrière. Le problème, c'est que ce n'est pas les énarques, ce n'est pas les polytechniciens qui feront la compétitivité française, c'est l'ensemble des salariés.
Sophie de Menton.
Moi, j'aurais voulu vous demander, puisque vous êtes travaillé en Allemagne, comment vous expliquez ça ? Parce que je suis tout à fait d'accord sur cette fierté nécessaire. Comment vous expliquez ça ? Est-ce que c'est notre éducation nationale ?
Mais Sophie,
c'est
l'idée en France qu'il n'y a de noble que le travail intellectuel, la diversité des excellences. En Allemagne, quelqu'un qui fait de l'apprentissage peut terminer PDG de l'entreprise. Il y a un véritable ascenseur social. Ça pose la question de la diversité des élites. Il faut des élites dans un pays, la question c'est celle de la diversité.
Écoutez, nous allons terminer là-dessus, puisque vous hochez tous la tête. Je rappelle, Guillaume Duval, le numéro spécial d'Alternative économique qui propose un dossier sur la compétitivité, un dossier où vous montrez en quelque sorte votre scepticisme à l'égard des notions de coût du travail et vous rappelez donc la question des taux de change. Emmanuel Combes, on a compris que vous étiez favorable à une augmentation de la qualité, on dit un fly to quality en anglais, pour sauver notre industrie française et nos services français vers le haut. Et Sophie de Menton, on a également vu que vous étiez hostile à ce que vous considérez comme étant tous ces embarras bureaucratiques qui sont lancés dans les pattes et dans les ailes des pigeons. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. On écoute Aluna George, Your Drums, Your Love. Et tout de suite après, Alice Augustin qui arrive avec un chapeau, car elle nous parlera de chapeau.
You can't say that I'm going nowhere, 'cause you don't know where I'm coming from. Say that I'm going nowhere when I have been trying to reach you for so long.
Your drums.
Friends say I've got something wrong, 'cause I've been trying to reach you for so long. For so long I've tried to reach you, baby. Don't you know that I've been treading water for your love? Whether I sink or swim, it's you I'm thinking of. I've been treading water for your love as my life grows dim. Maybe I'm not strong enough for
your drive.
Strong enough.
Et à l'horloge productive de France Inter, il est 10h50, car c'est la seconde partie de l'émission.
La séquence du consommateur.
Et voici une autre compétitive, Alice Augustin. Bonjour Alice.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Vous allez aborder une thématique prise de tête, puisque vous allez nous parler de chapeaux. Il paraît qu'il faut porter un couvre-chef pour être tendance cet hiver. Et je vous l'avoue Alice, ça ne m'enchante pas beaucoup.
Et oui, chers auditeurs, il faut savoir que Guillaume Erner a une sainte horreur des chapeaux et que j'en fais régulièrement les frais. C'est bien simple, à chaque fois que j'arrive au studio coiffée d'un couvre-chef, eh bien j'ai le droit à toutes sortes de railleries.
Mais vous persistez, hein, néanmoins.
J'aime ça. Mais enfin, ça y est, la tendance va me venger, car le chapeau est la star des défilés automne-hiver. On a vu des chapeaux cloches géants en fourrure ou en feutre chez Marc Jacobs et Vuitton. Je vois que ça vous plaît. Mais aussi des néo-bombes équestres chez Discworld pour un look d'écuyère chic, des casquettes militaires recouvertes de plumes chez Cavalli, des chapeaux de cow-boy chez Moschino, des bibis cloutés chez Gucci, des Fedora chez Hermès. Vraiment tout un tas de chapeaux, Guillaume. Bref, pour être à la mode cet hiver, il faudra avoir une tête bien faite, mais surtout une tête couverte.
Alors vous parlez de Fedora, Alice, mais ce n'est pas forcément clair pour les non-spécialistes. C'est peut-être l'occasion de nous faire une petite leçon de chapeau, non?
Et oui, c'est sûr qu'entre les modèles Fedora, Trilby, Pork Pie ou Panama, on peut s'en mêler les pinceaux. Donc commençons par le plus connu, le Panama. C'est ce chapeau souple équatorien en fibre naturelle ivoire, souligné d'un ruban noir. Mais bon, on le réserve plutôt à l'été. Et cet hiver, on privilégie les chapeaux en feutre, en tweed ou en laine. Parmi eux, on trouve d'abord le Trilby, rendu célèbre par Sinatra et Michael Jackson. On le reconnaît à ses bords étroits, relevés derrière et baissés devant. L'autre modèle très à la mode, c'est le Pork Pie, reconnaissable à sa forme de galette aplatie et à ses bords fins, retroussés vers le haut. C'était l'accessoire fétiche de Buster Keaton. Et enfin, il faut parler du grand retour du Fedora, ce chapeau à bord large, cher à Humphrey Bogart et surtout à Indiana Jones.
Mais bon, Alice, si on n'a pas une tête à chapeau, et vous savez que pour moi, les têtes à chapeau sont rares, qu'est-ce qu'on peut faire?
Eh bien, Guillaume, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se rabattre sur les deux autres stars de l'hiver, la casquette et le bonnet, youpi. Et oui, c'est de couvre-chefs un peu plus relax sont aussi 100% mode. On trouve la casquette sous toutes ses formes, marin, militaire, gavroche ou bombé. Même la casquette de sport à visière est devenue le nouvel accessoire décalé des fashionistas. Le bonnet, quant à lui, se porte désormais avec les tenues les plus chics. On le choisit en grosse maille, bien épaisse. Et puis la nouveauté, c'est que l'on trouve des modèles très féminins, soit brodés de bijoux comme chez Polka ou customisés avec une voilette en résille. Une bonne nouvelle donc pour les frileux se brancher. Et moi, je vous préviens, Guillaume, quand j'arriverai en bonnet au studio la prochaine fois, vous n'aurez plus le droit de moufter.
Vous pourriez essayer le casque intégral aussi, Alice Augustin, mais ça serait difficile avec le casque audio que vous devez porter à la radio. Ouais. C'est pour ça que vous ne portez pas de casque intégral. J'ai compris. Merci beaucoup. À dans 15 jours, Alice.
France Inter. Service public.
Lui, généralement, il préfère les cagoules. C'est Hervé Pochon, un temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour à tous et bienvenue à la Sigmund Freud Université à Paris, à deux pas de l'étoile, où il y a différentes salles de classe avec trois cours. Il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez faire des bruits. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites à la machine à café, mademoiselle?
Ben, je prends un café.
Ah, c'est une bonne raison d'aller à la machine à café. Et qu'est-ce que vous faites à la Sigmund Freud Université?
Je suis assistante de direction.
Et vous assistez aux cours parfois?
Non.
Non, non. Ça ne vous intéresse pas?
C'est pas que ça m'intéresse, mais l'apport est par capillarité. Je fréquente les profs. Déjà, travailler avec Nicole.
Nicole Aquenin.
Nicole Aquenin, c'est déjà un bel apport. Ouais. Donc voilà.
Bon. Votre prénom?
Cécilia.
Je vous remercie, Cécilia. Bon café.
Merci à vous.
Alors, voilà, elle est donc la fondatrice avec donc Nicolas Talis et Nicolas Aquenin, fondatrice de l'SFU Paris. Voilà.
Donc, Sigmund Freud Université Paris, branche française de l'Université Sigmund Freud de Vienne.
Alors, vous êtes une filiale de la Sigmund Freud Université.
La branche française.
Mais alors, ça va être très rigolo parce qu'on a l'impression d'être dans un bel appartement à Paris, tout près de la place de l'Étoile, mais pas du tout à l'université. Quoi.
C'est vrai, mais c'est une autre forme d'université, peut-être une forme plus actuelle de l'université. On a choisi le beau.
Et ça coûte combien alors? Parce qu'en général, quand on choisit le beau, ça coûte cher.
Écoutez, ça coûte pas très cher en fait.
Pour les cours?
Alors, c'est 4 750 euros le semestre. semestre.
Ah oui, quand même.
En fait, non, parce que nous sommes à peu près à 13,50 € de l'heure. À savoir que nos étudiants ont plus de 300 heures par semestre de cours, plus les stages, plus la supervision, plus le tutorat, plus la direction des thèses. Voilà. Donc,
Et alors, quand on sort de la Sigmund Freud Université au bout de 5 ans,
alors, on est... En 3 ans, on a une licence européenne. On appelle un baccalauréat en allemand, mais une licence européenne et un master européen au bout de 5 ans. Équivalent à tous les masters, les licences et les masters publics.
Mais non, il n'y a pas de problème. Il y a des enfants à la Sigmund Freud Université.
Un enfant d'une étudiante.
Ah, oui.
Qui est là à la pause.
Et alors, vous enseignez à la Sigmund Freud Université?
Oui, j'enseigne aussi. Oui.
Et vous enseignez quoi?
Moi, j'enseigne la complémentarité des méthodes, et notamment au niveau psychanalytique, et principalement Freud et Jung.
Ah, d'accord.
La complémentarité entre Freud et Jung, et non pas la dualité entre Freud et Jung.
Ah, bah oui, il vaut mieux essayer d'assembler que de.
Absolument.
Il y a tellement de gens
qui. C'est tout à fait notre philosophie. C'est-à-dire que nous tentons de montrer aux étudiants combien chaque initié, on va dire, a apporté sa touche et comment chacun était complémentaire en termes de théorie et de pratique.
Il y a combien d'étudiants dans votre université?
50 pour l'instant. Mais nous sommes tout bébés.
Ah, hein, ça, vous avez quel âge?
On a 4 ans. Ouais, on a 50 étudiants pour l'instant. C'est très bien.
Et comment se fait-il qu'il ait fallu attendre aussi longtemps pour qu'il y ait une Sigmund Freud Université à Paris?
C'est la première université du monde en psychothérapie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre psychologie, psychothérapie et psychiatrie. Mais j'imagine que oui, quand même.
Un petit peu, mais quand même, précisez-moi.
Alors, la psychologie, c'est quand même une approche, mais peut-être que Georges peut en parler plus que moi. C'est une approche beaucoup plus théorique. Alors que la psychothérapie est basée sur le connais-toi toi-même, c'est la philosophie de la psychothérapie, et sur, en fait, la cohérence entre la théorie et l'expérience sur soi. C'est-à-dire qu'à partir de la théorie, on apprend à se connaître.
Et alors la psychanalyse?
La psychanalyse, elle, en fait, nous faisons de la psychothérapie psychanalytique, à savoir que Freud ne faisait aucune différence, je ne sais pas si vous le savez, entre psychanalyse et psychothérapie.
Je ne savais pas.
Voilà. Mais nous avons un peu traduit la psychanalyse comme le divan et les cures sur le divan, alors que la psychothérapie est beaucoup plus dans le face-à-face.
Et je peux assister à un début de cours
Si vous voulez, avec Georges.
Ah, bah, très bien.
Ah, bien sûr, avec plaisir.
D'accord.
Georges, tu es avec quelle année? Avec la troisième année du sens?
Je crois, oui.
Et alors, c'est la...
On va galer.
Bon, ben merci. Et c'est la rentrée, donc, hein?
C'est la grande rentrée aujourd'hui.
Ben, dites donc, hein, vous, les feignants, les psychothérapeutes, ils commencent tard, la rentrée.
Ils commencent tard, mais qu'est-ce qu'on travaille?
Je ne sais pas où...
Alors, toi, tu es là.
Il y a combien de salles?
Il y a 4 belles salles.
Et elle fait quelle surface, l'université?
400 mètres carrés.
Bel appartement.
Pas mal, hein?
Ah, mais c'est mamie, c'est...
C'est mamie, en fait.
Ah, c'est votre petit-fils?
C'est mon petit-fils, mais c'est surtout... sa maman est étudiante ici.
D'accord.
Alors, il est venu rester avec sa maman.
Une histoire de famille.
Une histoire de famille.
Et alors là, l'autre cours qui vient de commencer, c'était un cours de quoi?
Alors, c'est un cours de première année, là. Donc, c'est une initiation à la psychothérapie. Et je pense que le titre du cours, c'est « La psychothérapie en tant que profession ».
D'accord.
Vous pouvez peut-être aller les voir aussi.
Oui, je peux aller un petit coup.
Je reviens après vous voir, d'accord,
c'est ça. Et sinon, on a neurosciences et psychothérapie.
Ah oui, d'accord. C'est
beaucoup plus spécialisé.
Ouais.
Excusez-moi, est-ce que vous monsieur participe un petit peu pour savoir ce qu'est la psychothérapie en tant que profession. Ça vous va, hein, pour France Inter?
Merci beaucoup. Je vais me mettre à côté du professeur.
Un temps de cochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
Service public, une entreprise à la pointe de la productivité grâce à ses compétitifs Jonathan Landau, Agathe Gilbert, Irène Mena et Mélodie Piel avec Stéphanie Texier à la réalisation. La musique a été choisie par Jean-Michel Montu. À la technique aujourd'hui, il y avait Michel Thomas et Charles Danet. Demain, dans Service public, on parlera de la sexualité des personnes handicapées. Et dans quelques instants, juste après le flash, vous retrouverez Frédéric Lopez avec « On va tous
y passer. Il est 4h58 aux États-Unis, ce qui fait qu'il est tôt aux États-Unis. Mais il est 11h en France et sur France Inter.